Et si on pouvait créer un objet 3D complexe, comme ça, juste en le décrivant avec des mots, ou, je sais pas, obtenir un modèle parfait à partir d'une simple photo. C'est un peu la promesse là qui agite pas mal le monde de la 3D avec l'arrivée en force de l'IA. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les sources que vous nous avez partagées et on va plonger dans les multiples façons dont l'IA est en train de remodeler la conception, l'ingénierie, même la médecine, le divertissement, bref, en réinventant la création 3D. L'objectif, décortiquer ensemble ces technologies émergentes, vraiment comprendre comment ça marche, ce que ça permet déjà aujourd'hui, et puis où tout ça pourrait nous mener. On va regarder différentes approches, les GAN, les LLMs, la photogrammétrie assistée par IA. Prêt pour cette exploration? Alors, commençons peut-être par ce qui a fait le plus de bruit récemment, l'IA qui génère de la 3D à partir de rien, juste avec du texte. Des outils comme ChatGPT d'OpenAI, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. L'idée de taper une banane qui est aussi un téléphone et de voir l'objet apparaître, c'est assez bluffant, non?
Ah oui, c'est vrai que l'idée est séduisante, presque magique. Mais les sources, notamment certains retours d'utilisateurs, on pense à une vidéo de Ludo Salène par exemple, ben ça nous ramène vite à la réalité. Les résultats visuels de ces premiers outils texte vers 3D grand public sont souvent qualifiés de mitigés, voire médiocres.
Médiocre, carrément.
Oui, enfin, disons que la fameuse banane téléphone ou les essais de maillot de foot générés par ShapeE, c'est plus amusant qu'utilisable pour l'instant, quoi. Ça montre un potentiel, évidemment, mais on est loin d'une qualité pro directement sortie du prompt.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? C'est quoi les technos derrière?
Ben, principalement deux grandes familles. D'abord, il y a les 3D GANs, ce sont les réseaux génératifs antagonistes, mais adaptés à la 3D. Il faut imaginer une sorte de compétition, un duel, un réseau générateur qui crée des formes 3D en voxels, nuages de points, peu importe, et un autre réseau, le discriminateur, qui essaie de deviner si c'est une vraie forme ou une fausse, une générée. Et à force de jouer à ce jeu, le générateur s'améliore, il apprend à créer des objets de plus en plus réalistes, c'est puissant, mais les sources indiquent que c'est coûteux en calcul et l'entraînement peut être un peu instable.
D'accord. Et la deuxième famille?
Pour les applications plus techniques comme la CAO, la conception assistée par ordinateur, on se tourne de plus en plus vers les grands modèles de langage, les fameux LLM. Ce sont les mêmes moteurs en fait qui sont derrière les chatbots comme ChatGPT, mais on les adapte pour qu'ils interprètent des descriptions techniques et génèrent non pas du texte, mais de la géométrie.
Justement, les sources parlent de tests menés par Zoométrie sur des outils texte vert Séamment, donc plus orientés à ingénierie. Il y a plusieurs noms, hein, Zoomio, AdamCAD, CAGPT. Sans forcément détailler chaque outil, qu'est-ce qui ressort globalement? Est-ce que ça marche pour un ingénieur aujourd'hui?
Alors, ce qui ressort de ces tests, c'est un paysage assez contrasté. D'un côté, on voit des outils comme Zoomio ou AdamCAD qui essaient de générer de la géométrie éditable, souvent paramétrique. C'est intéressant pour des ébauches rapides, explorer des concepts.
Paramétrique, c'est-à-dire qu'on peut changer les dimensions après.
Exactement. Zoho, par exemple, permet même d'ajuster des dimensions via des curseurs dans une application à part. C'est pas mal. Et d'un autre côté, on a des approches comme ChatGPT qui, lui, génère du code, genre du DXF ou DWG, plutôt qu'un visuel. Ça s'adresse plus à des utilisateurs experts capables de manipuler ce code après.
D'accord, plus technique.
Mais le constat général, et c'est partagé aussi par des experts de PTC dans une autre source, ça reste le même pour l'instant. Ces outils sont prometteurs pour l'idéation, oui, pour démaner un projet, pour défricher. Mais ils peinent encore dès qu'on demande de la haute précision, des détails fins ou la complexité d'un vrai assemblage industriel. L'intention de conception, la vraie, elle reste difficile à capturer juste avec du langage.
Et puis il y a la fiabilité, j'imagine.
Oui, la fiabilité aussi pose question parfois. Un des outils testés, Vondi, avait apparemment du mal à livrer les fichiers promis. Et puis, l'importance du prompt est aussi soulignée partout. Une description vague donne un résultat vague, logique. Pour obtenir une pièce précise avec Zoo, ben il faut détailler très précisément ses caractéristiques, ses contraintes.
Donc en résumé, utile pour lancer des idées, mais pas encore prêt à remplacer le travail méticuleux sur, disons, un SolidWorks ou un CATIA.
C'est ça. C'est l'état actuel. Mais l'ambition, elle est clairement d'aller plus loin. Autodesk, par exemple, travaille sur un projet nommé NeuralCAD. L'idée, ce serait de pouvoir générer de la géométrie BEROP, ça c'est le format standard, précis de la CAO, directement dans un logiciel comme Fusion 360, juste en décrivant ce qu'on veut.
Ah oui, BEROP, c'est la représentation par les frontières, c'est ça. Beaucoup plus précis.
Exactement, ça montre bien la direction. Une IA de plus en plus intégrée et capable, idéalement, de comprendre la logique métier de l'ingénierie.
C'est une transition parfaite, ça. Parce que au-delà de générer des formes brutes, comment l'IA devient une sorte de collaborateur, d'assistant intégré? On a vu émerger des systèmes où l'IA ne crée pas directement, mais pilote des processus. Une des sources parle de 3D-GPT. C'est quoi exactement? Ça fonctionne comment?
Alors, 3D-GPT, c'est une approche assez différente et plutôt astucieuse, je trouve. Plutôt que de vouloir générer la géométrie 3D directement, il utilise un LLM pour générer du code, souvent du Python. Et ce code va ensuite piloter un logiciel de modélisation qui existe déjà, comme Blender ici, via une bibliothèque spécialisée dans la génération procédurale.
D'accord. L'IA écrit le code qui fait le travail dans Blender.
C'est ça. En gros, c'est un système avec plusieurs agents IA qui collaborent. Un agent analyse la demande de l'utilisateur, transforme cette scène en paysage divers. Un autre enrichit la demande avec des détails logiques. Quel type de neige? Les arbres, ils ont des feuilles ou pas? Et un dernier agent génère le code Python précis qui va appeler les bonnes fonctions dans Blender pour faire la transformation.
Intéressant.
L'avantage potentiel, c'est un meilleur contrôle et la possibilité d'éditer la scène pas à pas, avec des instructions successives. C'est moins une boîte noire, quoi. C'est plus une séquence d'opérations pilotée par l'IA, mais qu'on peut, en théorie, mieux suivre et ajuster.
Je vois. Et cette idée d'IA intégrée aux outils métiers, on la retrouve aussi en force chez Autodesk, avec leur Autodesk Assistant. Les sources le présentent comme bien plus qu'un simple chatbot d'aide. Qu'est-ce qu'il est censé faire concrètement pour un architecte sur Revit ou un designer sur Fusion?
Oui, d'après les annonces et les démos d'Autodesk, l'assistant est vraiment conçu pour être un partenaire IA agentique. Il est censé comprendre le contexte du projet sur lequel on travaille. Il pourrait répondre à des questions techniques, bien sûr, mais aussi aider à résoudre des problèmes, automatiser des tâches un peu répétitives comme la gestion des permissions, la configuration de projet.
D'accord.
Et même plus ambitieux, il pourrait vérifier si un design est conforme à certaines normes ou même proposer des solutions de conception en temps réel, toujours sous supervision humaine, bien sûr. Ils ont aussi montré des capacités de génération de rendus photoréalistes directement liées au projet ouvert en s'appuyant sur les services d'Azure OpenAI.
Impressionnant. Mais pour qu'une IA puisse interagir aussi finement avec un logiciel aussi complexe que Revit ou AutoCAD, il faut bien qu'ils arrivent à se parler, non? Comment l'IA peut savoir quel mur en a sélectionné ou comment créer une fenêtre juste là, au bon endroit?
Ah, mais c'est tout l'enjeu! Et c'est là qu'intervient une autre pièce maîtresse développée par Autodesk, le Model Context Protocol, le MCP. Ils le décrivent un peu comme l'USB-C de l'IA pour les logiciels de création, un standard ouvert.
L'USB-C de l'IA, j'aime bien l'image.
Oui. Son but, c'est de standardiser la façon dont un LLM peut interagir avec les fonctionnalités spécifiques d'une application externe, comme un logiciel CAO. Concrètement, le MCP utilise une capacité des LLM, ce qu'on appelle le function calling. Quand on donne une instruction en langage naturel du genre « insère une porte standard dans ce mur », le MCP aide l'IA à identifier la bonne fonction de l'API du logiciel, par exemple « insert door in wall » dans Revit, et à l'appeler avec les bons paramètres.
D'accord.
Et surtout, et c'est crucial, il permet une interaction bidirectionnelle. Si on sélectionne un mur dans Revit, l'info, l'ID du mur, ses propriétés, est transmise via le MCP à l'IA. Du coup, l'IA a le contexte nécessaire pour exécuter la commande suivante sur le bon élément. C'est ça qui rend possible une collaboration plus fluide, plus pertinente entre l'humain et l'IA intégrée.
D'accord. Ok, c'est beaucoup plus clair comme ça. On a donc vu l'IA générer du neuf à partir de textes et l'IA qui assiste et pilote au sein même des outils numériques. Mais les sources explorent une autre voie majeure, à partir du monde réel, pour le numériser en 3D. Comment l'IA nous aide à transformer de simples photos en modèles tridimensionnels? C'est le domaine de la photogrammétrie, c'est ça?
Exactement. La photogrammétrie, c'est l'art et la science de reconstruire la forme, les dimensions d'un objet ou d'une scène à partir de multiples photos prises sous différents angles. Le principe clé, c'est le recouvrement. Chaque partie de l'objet doit être visible sur plusieurs photos. On vise souvent 60, 70, 80% de recouvrement entre les clichés.
Il faut beaucoup de photos, donc.
Ça dépend de la complexité de l'objet, mais oui, souvent plusieurs dizaines, voire centaines. Les conditions de prise de vue sont aussi importantes. L'objet doit idéalement être mat. On peut utiliser un spray matifiant si besoin pour éviter les reflets. L'éclairage doit être diffus, uniforme. Un ciel nuageux, c'est parfait en extérieur. Et le fond doit, si possible, contraster avec l'objet.
Et ensuite, c'est le logiciel qui travaille.
C'est ça, le logiciel analyse les photos. Il utilise des algos, souvent basés sur une technique nommée Structure from Motion, SFM, pour détecter des points caractéristiques des détails de texture, des coins présents sur plusieurs images. En triangulant la position de ces points depuis les différents angles de vue, il calcule leur position 3D et génère d'abord un nuage de points, puis un maillage, une surface.
Et le résultat est directement utilisable?
Alors, c'est un point crucial, souligné dans le guide de Formlabs, par exemple. Le résultat brut nécessite presque toujours un post-traitement. Il faut nettoyer le modèle, boucher les trous, supprimer les artefacts, les petits morceaux flottants qui peuvent apparaître. Il faut parfois réparer la topologie du maillage. Et surtout, il faut remettre le modèle à la bonne échelle, parce que la photogrammétrie seule ne nous donne pas l'échelle réelle de l'objet.
Ah oui, l'échelle.
Oui. Et pour ça, on utilise des outils comme MeshLab, qui est gratuit et open source, ou MeshMixer, qui était aussi très populaire. Voilà, c'est une étape quasi indispensable.
D'accord. Et côté logiciel de photogrammétrie eux-mêmes, les sources en comparent plusieurs. Est-ce qu'il y a des incontournables ou des choix qui se dégagent selon les besoins?
Oui. Le guide de Formlabs en mentionne plusieurs, avec leurs forces et faiblesses. Autodesk Recap est cité comme très performant, mais il est payant et plutôt cher. Reality Capture est réputé pour sa rapidité et sa précision, surtout sur les formes organiques, mais il serait un peu moins à l'aise sur les grandes surfaces planes. Edgisoft MetaShape est décrit comme fiable, solide, bon pour les textures qu'on peut ensuite modifier, mais peut-être un peu plus lent.
Et puis, pour ceux qui cherchent une solution gratuite et open source, il y a Meshroom. Il est puissant, basé sur un pipeline de recherche solide, mais son interface à base de nœuds peut être un peu rebutante pour les débutants. Donc, le choix dépend vraiment du besoin, le budget, le type d'objet à scanner, la précision qu'on recherche. Est-ce qu'il y a des applications particulièrement marquantes ou même critiques qui émergent, peut-être en combinant justement photogrammétrie et IA?
Absolument. Une des sources détaille un projet de recherche vraiment très pointu mené par Sorbonne Université et l'hôpital Trousseau. Ça concerne la chirurgie du rachis, notamment la correction des scolioses. C'est une opération où il faut placer des vis dans les vertèbres, un geste extrêmement délicat. Apparemment, il y a jusqu'à 24% de mauvais positionnement des vis sans assistance, ce qui peut avoir des conséquences graves.
Ah oui, quand même.
Oui. Et leur idée, c'est d'utiliser une simple caméra 2D pendant l'opération pour filmer le dos du patient. À partir de ces images temps réel des parties visibles des vertèbres, les épineuses, les processus transverses, ils développent des méthodes d'IA, de deep learning, pour reconstruire en 3D la forme précise de chaque vertèbre en temps réel.
En temps réel, pendant l'opération.
C'est l'objectif. L'idée finale, c'est d'utiliser cette reconstruction 3D dynamique pour guider plus précisément soit le chirurgien, soit un robot chirurgical, en s'adaptant aux mouvements et aux déformations qui peuvent se produire pendant l'intervention. Ce qu'un scanner fait avant l'opération ne peut pas capturer ces changements en direct.
C'est incroyable comme potentiel.
Oui, et les techniques d'IA qu'ils explorent sont à la pointe. Adaptation de domaine, depuis des données synthétiques pour entraîner les modèles, reconstruction 3D à partir d'une seule vue 2D, utilisation de graphes pour comprendre les relations spatiales entre les vertèbres. Ça rejoint d'ailleurs une autre source qui mentionnait l'utilisation des GANs pour la reconstruction d'images médicales. On voit bien là le potentiel de l'IA pour des applications où la précision et la fiabilité sont absolument critiques.
C'est assez vertigineux comme application potentielle, en effet. Mais bon, pour revenir à une vision un peu plus globale, malgré toutes ces avancées impressionnantes, les sources soulignent aussi pas mal de défis, d'obstacles actuels. Quels sont les principaux freins qui ressortent?
Ils sont nombreux et assez variés en fait. On a déjà un peu évoqué le coût de calcul de certaines méthodes, comme les GAN. Un problème qui revient souvent, c'est la difficulté à générer des détails fins et des textures complexes de manière vraiment réaliste, que ce soit avec les GAN ou les outils texte vert 3D plus simples.
Oui, les résultats mitigés dont on parlait au début.
C'est ça. La qualité des données d'entraînement est un autre point crucial, soulevé notamment par PTC. L'IA a besoin de données massives, oui, mais surtout bien structurées, sémantiques, pour vraiment comprendre la fonction, les relations entre les éléments d'un design complexe.
Et au-delà de la technique pure.
Il y a aussi des défis plus humains. Gérer les attentes parfois démesurées des clients qui imaginent que l'IA va tout faire, tout de suite, pour moins cher. L'agence Studio Raclette en parle dans son retour d'expérience. L'intégration technique de l'IA dans les flux de travail existants, c'est aussi complexe. On l'a vu avec le protocole MCP, mais il y a aussi des contraintes techniques dans des logiciels denses comme Revit, par exemple. Un manque de contrôle fin sur le résultat généré est souvent cité. On dépend beaucoup de ce que l'algorithme décide de produire. Et parfois, juste la fiabilité de base, comme la simple livraison du fichier généré dans les temps, ce n'est pas encore toujours au rendez-vous, comme le montrait le test de Vandy.
D'accord. Face à tous ces défis, quelle est la place de l'humain alors? Du créateur, de l'ingénieur? Est-ce que l'objectif final, c'est de remplacer ces rôles?
Non, pas du tout ce qui ressort des sources pour l'instant. Au contraire, plusieurs insistent vraiment sur le fait que l'IA reste un outil, un copilote. L'article de Studio Raclette le dit très bien, l'expertise humaine reste indispensable. Pour la vision créative, la direction artistique, la validation des propositions de l'IA et même la correction technique, leurs développeurs, ils passent du temps à revoir et optimiser le code que l'IA génère.
C'est rassurant, d'une certaine manière.
Oui, et PTC parle aussi d'IA comme d'un assistant qui augmente les capacités humaines, mais ne remplace pas le jugement critique ou la créativité fondamentale. L'enjeu actuel, c'est plutôt celui de la formation des équipes, de l'adaptation des processus pour intégrer ces nouveaux outils intelligemment, sans tout attendre d'eux.
D'accord. Et pour terminer, quelles sont les perspectives d'évolution NR? Vers quoi on se dirige d'après les recherches, les tendances observées dans les sources?
Les pistes d'amélioration sont multiples. On peut s'attendre à des algorithmes plus performants, par exemple intégrer des architectures type Transformers dans les GAN pour mieux saisir les relations spatiales à longue distance dans un objet 3D. Les LLM vont être de plus en plus spécialisés pour les tâches 3D, c'est sûr.
Plus précis donc.
Oui. Bout de concept comme la découverte autonome de règles de génération par l'IA, ce qui était évoqué pour 3DGPT, ou une meilleure gestion du multimodal, combiné texte, images, sons, peut-être même gestes, pour générer de la 3D, sont en vue. L'intégration au logiciel métier va continuer de s'approfondir via des initiatives comme l'assistant Autodesk et le MCP, la personnalisation des modèles IA pour les besoins spécifiques d'une entreprise, comme le propose Zoo avec l'entraînement sur données propriétaires, ça sera sans doute une clé importante. Et puis, le marché global de l'IA industrielle est promis à une croissance exponentielle selon plusieurs analystes cités.
Bon. Pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, l'IA s'infiltre vraiment dans la création 3D par de nombreuses portes, que ce soit pour générer des formes à partir de textes, piloter des logiciels de manière procédurale, reconstruire le réel depuis des photos ou assister les concepteurs au quotidien, la révolution est clairement en marche.
Oui, c'est déjà utile pour l'idéation, le prototypage rapide, l'automatisation de certaines tâches, mais l'évolution est extrêmement rapide.
Et pour l'heure, l'IA semble surtout augmenter nos capacités humaines, nous rendre plus rapides ou nous ouvrir de nouvelles possibilités, plutôt que de nous remplacer purement et simplement.
C'est exactement ça. Un outil puissant, mais qui demande encore à être maîtrisé et intégré judicieusement.
Et pour finir, une petite question à laisser infuser. Si ces outils accélèrent la création et peuvent générer des formes radicalement nouvelles, comment est-ce qu'ils vont changer non seulement la façon dont nous créons, mais aussi ce que nous valorisons dans le design? Est-ce que la rapidité, l'efficacité primeront sur l'originalité d'une vision artistique, sur le savoir-faire artisanal? Ou est-ce que ces IA vont, au contraire, débloquer des esthétiques complètement inédites, peut-être même impossibles à concevoir ou réaliser pour un humain seul? Voilà qui conclut notre analyse approfondie des sources sur l'IA et la 3D. Si le sujet vous passionne, n'hésitez pas à tester certains des outils mentionnés, beaucoup ont des versions d'essai accessibles. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle exploration.